commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Radio Campus Tour, il est 7h15 et comme chaque vendredi matin, c'est l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes le vendredi 14 novembre et on vous accompagne pendant 50 minutes d'émission pour bien commencer la journée. Au programme ce matin, Lise reviendra sur la menace djihadiste au Mali après l'exécution publique d'une tiktokeuse. Gabriel nous amènera au Brésil où s'est ouverte lundi la COP30. Et côté sport, Mathis Modet reviendra sur la qualification hier soir de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde 2026. Mais tout de suite, place au Flash Info. Bonjour Clara.
Dix ans jour pour jour après la tragédie, hier, la France a rendu hommage aux 132 victimes des attentats du 13 novembre 2015. La cérémonie a permis d'inaugurer le Jardin des Souvenirs derrière l'hôtel de ville de Paris. Emmanuel Macron a également annoncé que les policiers intervenus au Bataclan se verraient décorés par la Légion d'honneur. Première condamnation pour crime de génocide contre la minorité kurdophone des Yazidis. À Bruxelles, un djihadiste belge présumé mort en Syrie et jugé par défaut a été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité en Irak et en Syrie. Il aurait également violé et réduit en esclavage sexuel trois femmes yazidis entre 2014 et 2016. Attaque sur Kiev ce matin. Les missiles et drones russes ont visé la capitale ukrainienne, faisant un mort et 15 blessés selon les services d'urgence. Le Hamas a remis hier soir à la Croix-Rouge les restes d'un des quatre derniers otages détenus dans la bande de Gaza. Cette restitution s'inscrit dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Ils ont quitté le BHV peu de temps avant les fêtes de fin d'année. Dior, Guerlain ou encore Sandro ont déserté le grand magasin parisien. Officiellement, ces départs seraient liés à des retards de paiement. Mais selon le groupe CMCP, l'arrivée du géant chinois Chine aurait joué dans leur décision. Une décision qui vient s'ajouter à une série de départs à un moment pourtant crucial pour le BHV. La France s'est imposée 4-0 face à l'Ukraine. Hier soir, les Bleus ont brillé au Parc des Princes, décrochant leur billet pour la Coupe du Monde. Une victoire fêtée tout en sobriété, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. DJ Snake sera de la partie. Après l'annonce de Aurel San au Chambord Live, le DJ franco-algérien fera lui aussi un concert en juin 2026. L'occasion pour l'artiste d'interpréter son dernier album Nomade, sorti le 7 novembre dernier. La billetterie ouvrira ce samedi à 10h.
C'était le Flash Info présenté par Clara Baudard. On se retrouve dans 20 minutes pour un nouveau point info. Il est 7h20 et vous écoutez Good Morning Tour sur Radio Campus Tour. Après un an d'incarcération en Algérie, l'écrivain Boualem Sansal a été libéré ce mercredi 12 novembre. Il est arrivé en Allemagne pour y recevoir des soins médicaux. Clara Danry.
Un soulagement selon les mots du Premier ministre Sébastien Lecornu. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accepté de libérer Boualem Sansal, principalement pour raisons humanitaires, afin que l'homme de 81 ans puisse aller se faire soigner en Allemagne. Pour vous resituer le contexte, l'écrivain franco-algérien avait été arrêté en novembre 2024 en Algérie pour, je cite, « atteinte à l'unité nationale ». Cela fait suite à des déclarations faites aux médias d'extrême droite Frontières, dans lesquelles Boualem Sansal aurait pris la position du Maroc en déclarant que son territoire aurait été tronqué durant la colonisation au profit de l'Algérie. Ces déclarations sont considérées par le code pénal algérien comme, je cite, « portant atteinte à l'intégrité du territoire national ou incitant à le faire ». Il est ensuite incarcéré dans une unité pénitentiaire de l'hôpital d'Alger et est finalement condamné à 5 ans de prison ferme en mars 2025. Cet événement avait intensifié la crise diplomatique entre la France et l'Algérie, faisant notamment suite au soutien de la France aux positions marocaines concernant le Sahara occidental le 31 juillet 2024. L'arrestation de l'écrivain a beaucoup fait réagir à l'échelle internationale. À titre d'exemple, le 23 janvier dernier, le Parlement européen a adopté une résolution pour condamner cette arrestation et réclamer la liberté immédiate et inconditionnelle de l'écrivain. Le président algérien refuse et a refusé jusqu'à aujourd'hui toute demande de libération le concernant.
Mais alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui sa libération ?
Excellente question. La différence, entre autres, est que cette fois, la demande n'est pas venue de la France directement. Étant donné le contexte hostile entre les deux pays, c'est le président allemand Frank-Walter Steinmeier qui a exhorté ce lundi 10 novembre son homologue algérien à gracier Boualem Sansal. Il l'a appelé à faire, je cite, « un geste humanitaire envers l'écrivain dont la santé se détériore rapidement en raison de son cancer ». L'Allemagne a donc joué le rôle de ce que l'on appelle en diplomatie un tiers de confiance. Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien de Boualem Sansal, a expliqué pourquoi c'est l'Allemagne qui a pris en main cette négociation. Je cite « L'Allemagne est un poids lourd en Europe et l'Algérie a beaucoup de choses à demander à l'Europe. » Ou encore « L'Allemagne a des liens économiques et énergétiques que nous n'avons pas. » Enfin, il ne faut pas oublier que le président algérien, M. Tebboune, a été sauvé par des médecins allemands quand il a eu un Covid extrêmement sérieux et qu'il est allé se faire soigner en Allemagne. Malgré toutes ces explications, certains voient cela comme un échec diplomatique de la France. Pour aller chercher Boualem Sansal à Alger, la présidence fédérale allemande a dépêché un avion du gouvernement dans lequel se trouvait le conseiller aux affaires étrangères du président. Dès la libération de l'écrivain, Emmanuel Macron a téléphoné à Steinmeier, je cite, pour lui exprimer sa profonde gratitude pour les bons offices de l'Allemagne.
Avec cette libération, Emmanuel Macron espère pouvoir rouvrir les discussions avec Alger dans une relation calme et respectueuse. Et maintenant, Lise nous parle du Mali, où la tiktokeuse Mariam Cissé a été assassinée la semaine dernière par un groupe djihadiste.
Le 7 novembre 2025, Mariam Cissé, jeune influenceuse malienne, a été enlevée puis exécutée en public dans la commune de Tonka. Suivie par près de 100 000 abonnés, la blogueuse publiait majoritairement des vidéos autour de la vie locale, mais elle a également exprimé à plusieurs reprises son soutien aux forces nationales. Bien que non revendiquée, cette exécution a rapidement été attribuée aux djihadistes du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans relié à Al-Qaïda. Ces derniers combattent l'armée officielle du pays dans la région du Tombouctou. Sa mise à mort reflète la terreur instaurée par les groupes djihadistes qui contrôlent déjà le sud du pays. Au-delà de ces actions symboliques, le GSIM impose également depuis des semaines un blocus des convois de carburant en attaquant ou en menaçant les camions-citernes qui approvisionnent Bamako et d'autres grandes villes. Privé d'essence, le pays a vu son économie ralentir, ses transports en commun se paralyser et les files d'attente s'allongent pour faire le plein. La guerre ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais dans les stations-service. Depuis octobre, les djihadistes ont intensifié leurs attaques sur les routes reliant le nord et le centre du pays. Résultat, le gouvernement a suspendu les cours pendant deux semaines, les élèves ne pouvant plus se déplacer. Les écoles ont rouvert le 10 novembre, mais dans un climat d'incertitude et de tension. Les chauffeurs routiers en première ligne ont promis de tout donner pour le Mali, selon le Sahel Tribune, mais leurs convois sont pris pour cible. Les cargaisons sont incendiées ou réquisitionnées.
Pourtant, Lise, on entend souvent parler de la présence des mercenaires russes dans le pays.
Oui, effectivement, la Russie continue ses tentatives pour agrandir son influence dans le pays. Depuis la rupture avec Paris et la sortie du pays du G5 Sahel, les autorités de Bamako, dirigées par le colonel Assimi Goïta, ont tissé des liens étroits avec Moscou. Officiellement, il s'agit d'un partenariat stratégique. Dans la pratique, la Russie, par ses instructeurs militaires et ses entreprises parapubliques, s'est installée dans les interstices laissés par les Européens. Mais cette présence n'a pas endigué la progression du GSIM qui continue de s'étendre près de Bamako. Le Mali s'affaiblit sous la pression des djihadistes malgré la présence de mercenaires russes. Dans ce contexte, les réseaux sociaux deviennent des champs de bataille symboliques. La Russie, via ses relais médiatiques, cherche à imposer un discours d'indépendance héroïque, tandis que les groupes djihadistes diffusent des messages de terreur et d'ordre moral. Entre les deux, la population, coupée du carburant, est la première à subir les conséquences de ce conflit.
Une situation qui reste donc très fragile pour le Mali. Le Quai d'Orsay a appelé les ressortissants français à quitter le pays. Il est 7h25, on va marquer une petite pause musicale avec le titre « Thelma et Louise » de Solane et Yoa.
T'es bourgeois, moins t'as de trucs à dire. J'ai pris ma cravache et mes bottes de cuir. Je compte plus les moutons ou les violeurs qui passent à la télé. Je méprise les bouffons et les suiveurs qui les font prospérer. Je pardonne à personne, je te l'ai dit, je suis redoutable. Je veux pas de fils de 1, pas de connard à ma table. Équipe de copines dans la voiture, cheveux dans le vent. Pris comme des étoiles qui traversent le ciel incandescent. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, boire au fol, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, boire au fol, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise. Partir comme Thelma.
plus fort que. J'ai débité des vérités, des petits lapins ont détalé. Ça leur fait mal de quémander, de baver, de se faire recaler. Ça fait les seigneurs, ça se complète dans le lamentable. Si nous balance des miettes, nous va retourner la table. Moi je me suis perdu et retrouvé dans les bras de mes douces. À danser autour d'un bûcher, ce soir la lune est rousse. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au fol, viser le drame à partir comme nous, ils étaient tellement à fin de course. Cours de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme ta mère. Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au fol, viser le drame à partir comme nous, ils étaient tellement à fin de course. Cours de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise. Partir comme Thelma et Louise. Pour l'amour les hystériques, si on leur offre volte-face, ça part en chalade historique, écran de fumée, tête dans la crasse. Coup de phalange dans les obliques, les ignorés arrivent en masse. Y'a une justice vitriolique à se faire descendre par des pétasses. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, l'effacer au vitriol, gloire ou folle, viser le drame à partir comme nous, ils étaient tellement à fin de course. Bout de route, on lâche rien à part le frein. Je prends la vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise.
C'était Thelma et Louise de Solane Yoa. Vous êtes bien sur Radio Campus Tours et vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'École publique de journalisme de Tours. Depuis lundi se déroule à Belém, au Brésil, la 30e édition de la COP30. L'occasion de faire le point sur l'état de la planète avec vous, Gabriel.
Nous nous précipitons vers le chaos climatique. Les signaux vitaux sont au rouge. C'est ce que dit le dernier rapport sur l'état du climat. Un rapport très sérieux, écrit par des gens très sérieux, qui ont visiblement décidé d'arrêter de tourner autour du pot. Ils l'ont même appelé une planète au bord du gouffre. C'est vrai qu'une planète qui fait ce qu'elle peut, ça sonnait sans doute un peu trop optimiste. Alors voilà, pendant que la Terre fait ce qu'elle peut, mais c'est déjà beaucoup, moins qu'avant se tient la COP30 à Belém au Brésil.
La COP, vous savez, ce grand rendez-vous où l'on discute de l'avenir du monde. Sauf que cette année, eh bien, comment dire, on ne la voit pas beaucoup, cette COP. Dans certains médias, elle a même disparu, éclipsée, avalée, dissoute, remplacée par des nouvelles passionnantes sur le régime alimentaire de notre ancien président en détention. Alors voilà où nous en sommes, notre maison brûle et nous, nous regardons la composition des pots de yaourt de Nico. Alors cela peut prêter à sourire, mais pendant ce temps, à Belém, les peuples indigènes, eux, manifestent. Eux n'ont pas besoin de lire les rapports scientifiques. Ils voient la forêt reculer chaque jour. Ils vivent là où l'urgence n'est pas une métaphore. Et parfois, on a l'impression qu'ils crient dans un immense désert. Un désert qui, ironie du sort, avance lui aussi. Alors 30 ans après la première COP, jamais le constat n'a été aussi inquiétant. En septembre, on a franchi la 7e limite planétaire, l'acidification des océans. Et en octobre, Antonio Guterres a déclaré que l'objectif des 1,5 degrés était désormais intenable. Quand le secrétaire général de l'ONU commence à parler comme ma prof de maths de seconde, qui a compris que mon niveau n'allait clairement pas s'améliorer, c'est effectivement qu'il y a un problème.
Sale temps pour la planète donc, mais alors qu'attendre de cette COP30 ?
Eh bien pour l'instant, pas grand-chose, aucune avancée majeure, rien qui ressemble à une rupture, une vraie. Juste cette drôle d'impression que tout le monde sait quoi faire, mais que personne n'a très envie de commencer. Un peu comme la vaisselle qui s'accumule au fond de mon évier, et on sait que c'est nécessaire, mais bon, on la fera lorsque ça sera nécessaire finalement. Alors voilà où nous en sommes, un sommet crucial, une ouverture médiatique fantôme, des peuples autochtones qu'on entend à peine, et des responsables qui préfèrent parler d'escroquerie verte plutôt que d'urgence vitale. Je vous laisse deviner quel président derrière cette citation. Spoiler alert, il est américain. 30 ans après la première COP, donc, le monde est au bord du gouffre. Et pourtant, on continue de regarder ailleurs. Peut-être parce que le gouffre, finalement, ça fait peur. Et qu'il est plus facile de commenter les yaourts de Nico que la chute annoncée.
À Tours maintenant, le groupuscule d'extrême droite des Tours et des Lys organisait une marche au flambeau samedi 8 novembre. Une manifestation visant à s'approprier la figure religieuse du saint patron de la ville. Dans le même temps, se déroulait une contre-manifestation regroupant plusieurs organisations antifascistes. Antoine Camara, racontez-nous.
Entre 150 et 200 militants d'extrême droite sont partis dès 20h depuis le parvis de la cathédrale Saint-Gatien dans le centre-ville de Tours. Il s'agissait de la troisième édition du défilé nocturne organisé par le groupuscule d'extrême droite locale des Tours et des Lys. Au sein du cortège, des manifestants, pour la plupart des hommes, sont venus de toute la France pour célébrer, ou plutôt se réapproprier, Saint-Martin, le saint patron catholique de Tours. Flambeau à la main et banderole au message identitaire, les militants ont également entonné des chants nazis empruntés à la Waffen-SS durant leur marche. Malgré les consignes données par les organisateurs, intimant de bien se comporter, d'ignorer les insultes ou encore de ne pas céder à la violence, des membres du groupuscule néofasciste ne se sont pas privés. Des parapluies étaient utilisés pour empêcher la prise de photographie, un dispositif de sécurité interne a été mis en place pour éloigner la presse et certains participants ont même repoussé physiquement des journalistes.
Mais derrière cette marche, la tension était palpable.
Effectivement, en parallèle du défilé, une contre-manifestation à l'appel du réseau antifasciste de Tours se tenait également dans les rues Tourangelle. Elle rassemblait de son côté deux fois plus de personnes, avec près de 400 militants issus de diverses organisations politiques, syndicales et associatives de gauche. Au moment où la marche du groupuscule d'extrême droite s'est élancée, des feux d'artifice ont été tirés depuis l'arrière du cortège par des militants antifa venus perturber le défilé. Les forces de l'ordre s'étaient mobilisées sur place afin de maintenir à distance les deux groupes, ce qui a permis aux deux manifestations de ne pas se croiser au cours de la soirée.
Pourtant, vers 20h30, une cinquantaine de militants antifascistes se sont opposés aux forces de l'ordre dans le centre-ville. Un seul manifestant a été interpellé pour insultes et jets de projectiles envers les policiers. Il est 7h34, vous écoutez Good Morning Tour sur 99.5 FM. On se retrouve juste après une petite pause musicale avec le titre Deception du groupe Le Tigre.
I'm
Decepticons du groupe Le Tigre. Nous sommes toujours dans l'émission Good Morning Tour sur Radio Campus Tour. Un peu de sport maintenant. Hier soir, l'équipe de France de football affrontait l'Ukraine à l'occasion des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus se sont imposés 4-0, une soirée chargée en émotions, 10 ans après les attentats du 13 novembre à Paris. Mathis Maudet.
Dans un parc des Princes plein, après la minute de silence observée en hommage aux 132 victimes des attentats, la solennité sur les visages des joueurs français et ukrainiens laisse place à la concentration. L'équipe de France doit s'imposer contre l'Ukraine pour obtenir son ticket pour le mondial. Les Bleus multiplient les attaques, mais la défense ukrainienne tient le choc en première mi-temps. Barcola, Olysée, Cherki, Mbappé, le quatuor offensif inédit des Bleus n'y fait rien. Les hommes de Didier Deschamps reviennent des vestiaires avec des intentions plus franches. À la 55e minute, Michael Olysée se fait marcher dessus dans la surface, pénalty. Kylian Mbappé ouvre la marque d'une Panenka avant d'inscrire le but du 3-0 quelques minutes plus tard, son 400e en carrière à seulement 26 ans. Hugo Ekitike, auteur du 4-0 à la 88e minute, inscrit son premier but en sélection et scelle la victoire française. En après-match, il réagissait au micro de TF1. « C'est une bonne chose de faite, on mérite la qualification. Ce soir, on a surtout une pensée par rapport à ce qu'il s'est passé il y a 10 ans, donc on fête humblement », a-t-il déclaré.
En 2026, les Bleus prendront la direction de l'Amérique pour disputer le 23e mondial de l'histoire. Déjà qualifiée, l'équipe de France affrontera l'Azerbaïdjan dimanche, alors que l'Ukraine, troisième du groupe, tentera de battre l'Islande pour accéder au barrage. Il est 7h39, tout de suite le Flash Info de Clara Baudard.
Retour à la normale pour l'économie américaine. Après 43 jours de shutdown, une paralysie budgétaire pour le pays, le président Donald Trump a promulgué la loi y mettant fin, suite à un accord conclu entre républicains et quelques démocrates. Toujours aux États-Unis, le pays pourrait refuser un visa aux étrangers souhaitant émigrer en raison de leur état de santé, notamment l'obésité. Cette mesure fait suite au renforcement de la politique migratoire de l'administration Trump. Une première en 12 ans, les deux syndicats portugais ont lancé un appel à la grève générale le 11 décembre prochain. Ils dénoncent un projet de réforme du droit du travail jugé comme une menace pour les droits des salariés. La dernière grève générale remontait à 2013. Le pays traversait une crise économique majeure. La Pologne, condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, pour restriction au droit d'avorter. En 2020, une femme avait dû se rendre à l'étranger pour avorter. La jeune femme était enceinte d'un fœtus atteint de trisomie. À l'époque, la législation polonaise était incertaine. La CEDH a finalement condamné hier le pays, estimant que la femme avait été directement affectée par ce flou législatif. 70 tonnes, c'est le nombre de tonnes de cocaïne saisies par les autorités françaises cette année, en septembre, selon l'office antistupéfiant LOFAST. Un chiffre dépassant les 54 tonnes saisies en 2025. Selon le directeur de LOFAST, environ la moitié de cette quantité, voire un peu plus, a transité par la zone Caraïbe avant d'être interceptée ailleurs. C'est un Dakar qui s'annonce corsé. C'est ainsi que le directeur de la course a décrit l'édition 2026 du 3 au 17 janvier. Cette année, les concurrents s'affronteront sur une boucle de 8000 km dans le désert d'Arabie Saoudite. Point de départ et d'arrivée de cette 48e édition, Yanbu, au bord de la mer Rouge, dans l'ouest du pays. Selon les organisateurs, l'itinéraire a été conçu pour maintenir un niveau de difficulté élevé, tout en assurant un équilibre. Partout à Tisse, c'est une nouvelle qui va faire plaisir aux lecteurs de Astérix et Obélix. Le 41e album de la série, Astérix en Lusitanie, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en France. À une semaine près, il surpasse déjà les ventes de son prédécesseur, L'Iris Blanc, paru en 2023.
C'était le Flash Info présenté par Clara Baudard. Place maintenant à un peu de culture. Cass Social est drag queen depuis un peu plus d'un an. Sur scène, elle est un peu cette tata des années 80, prête à déconstruire l'idée d'un drag trop lisse et sans imperfection. Clara Baudard l'a rencontrée en juin dernier.
Le stress à fond.
Pour son premier show, Cass Social sent la tension monter. Ce show, elle s'en souvient avec un poil d'humour.
J'étais pas corsetée à l'époque, mais je pense que si j'avais porté un corset, je me serais fait pipi dessus, hein, si on est très honnête. Hein. Le stress était énorme. Pourtant, l'Oxford, c'est vraiment pas immense, pas une immense salle, etc. Mais juste le fait de monter sur scène et de devoir affronter le regard des autres, c'est toujours un peu compliqué, surtout dans le drag. On est, on est un peu tous pas maîtres justement de la confiance en soi, donc on essaie de faire avec. Et la confiance, elle vient petit à petit. Encore aujourd'hui, il y a des moments où je suis en stress total, où j'ai les jambes qui flagellent un peu avant de monter sur scène, mais c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Et puis il y a aussi le fake it till you make it, ça veut dire qu'il faut, y croire tant qu'on n'y est pas arrivé en fait.
Si la confiance en soi vient avec le temps, son identité artistique, Casse Sociale l'a déjà trouvée. C'est un mélange de ce qu'elle est déjà et de ce qu'elle aimerait être.
Forcément, Casse Sociale, c'est vraiment juste un personnage plus désinhibé qui va du coup être beaucoup plus à l'aise avec les gens que ce que je le serais moi en civil en fait. Moi, je suis une vieille tata des années 80. J'adore dire ça parce que j'ai vraiment ce prisme d'être une personne bruyante, qui prend beaucoup d'espace, qui va blaguer avec tout le monde, qui va voir tout le monde. J'ai un peu ce côté femme du peuple. J'aime pas dire ça parce que ça veut rien dire être une femme du peuple aujourd'hui. Mais j'aime bien connecter avec les gens, en fait. Et je pense que c'est important. Dans le drag, il y en a beaucoup à qui on reproche des fois d'être juste joli ou d'être un peu hautaine des fois. Moi, je veux pas retranscrire ça. Je veux vraiment qu'on soit sur quelque chose. Voilà, c'est du partage, le drag, en fait. Donc, si t'amènes pas le partage, ça sert à rien d'en faire pour moi.
Le drag a permis de libérer la créativité de Casse Sociale. Une créativité dans un univers drag qui se veut parfois un peu trop lisse, selon elle.
C'est plus sur un autre aspect que j'ai eu du mal au début parce que, encore une fois, j'avais ce problème d'esthétique où j'étais pas la plus polish, donc j'étais pas la plus clean avec les plus belles perruques et les plus belles tenues. Donc ça, des fois, c'est un peu dur. Le public, et parfois même dans le drag, on va aller chercher un espèce de standard de beauté qu'on ne devrait pas avoir parce qu'il n'y a pas de standard de beauté dans le drag, ça n'existe pas. Le drag, c'est vaste et c'est propre à l'interprétation de chacun chacune.
Pour Casse Sociale, l'important, ce n'est pas juste l'image, mais aussi la puissance que l'on va donner dans le show. Et s'impliquer, pour elle, c'est aussi prendre parti.
Au contraire, ça me donne encore plus envie d'être vocal déjà sur nos situations, que ce soit dans le drag ou en dehors par rapport aux sujets liés à la communauté LGBTQIA+, donc par exemple comme pour les personnes trans, les travailleuses du sexe, les personnes racisées, etc. Ça donne envie d'être encore plus vocal et de donner aussi la parole à ces personnes-là qu'on n'entend pas assez et d'être plus présente dans, par exemple, les manifestations, dans les engagements politiques aussi, parce que le drag, c'est politique, on l'entend beaucoup. Il y en a peu qui le mettent vraiment en pratique et c'est dommage parce qu'on devrait vraiment prendre ça à bras le corps, je pense.
Et des projets, Casse Sociale en a plein les poches, comme créer ses propres spectacles. Elle aime tout dans le drag, même quand ça dépasse.
Casse Sociale ambitionne de faire des shows dans toute la France. Vous la retrouverez peut-être sur les scènes Tourangelle prochainement. Il est 7h45, le temps d'une pause musicale. Place à un grand classique des Beatles, Revolution.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. We'll be right back.
you tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be
des Beatles. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Albi, capitale politique depuis deux jours et jusqu'à aujourd'hui, le 94e congrès des départements de France s'y déroule. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, accompagné de plusieurs ministres et du président du Sénat, Gérard Larcher, est donc aujourd'hui dans la préfecture du Tarn. Cet événement est surtout l'occasion de parler des départements. Jules Frécon, expliquez-nous.
Oui, au total, 80 départements sont représentés à Albi. Et le but des présidents des collectivités est clair, faire parler de la situation financière de leur territoire. François Sauvadet, président des départements de France, l'a fait hier. Cela fait bientôt 3 ans que nous alertons sur la crise financière qui frappe nos départements, a-t-il lancé lors de ses assises. Toutes les collectivités sont affectées par les coupes budgétaires de l'État, mais les présidents des départements de l'Hexagone font entendre leur voix durant ce congrès. Pour tenter d'améliorer la situation financière des collectivités, certains proposent des solutions. Christophe Ramon, président du département du Tarn, en a proposé 3. Parmi elles, accorder, je cite, 600 millions d'euros pour permettre à ces 60 départements qui vont être en grande difficulté financière de pouvoir voter leur budget 2026. Les débats sur le budget 2026 de l'État n'auront finalement pas lieu ce week-end, évoqués notamment la fatigue des députés. La gauche critique cette décision.
On arrive déjà sur la fin de cette émission, mais avant de se quitter, on retrouve Angelina Richard avec son billet d'humeur. Est-ce que c'est gênant d'avoir un copain ? Vous l'avez peut-être aperçu, la journaliste Chant Joseph a signé pour le magazine Vogue un article consacré aux relations amoureuses, ou plutôt ce qu'elles sont devenues.
Depuis petit, les films Disney, nous ont habitués à des représentations de femmes blanches dont le bonheur dépendait des hommes. Une représentation hétéronormée et sans diversité qui illustre bien la condition des femmes dans la société il y a quelques dizaines d'années. La société capitaliste et patriarcale enfermait les femmes dans leur couple. C'était une sorte de validation de la société. Les femmes n'ont pu avoir un compte en banque à leur nom qu'à partir de 1965. On attendait d'elles qu'elles se consacrent uniquement à leur famille.
D'accord, mais jusqu'ici, rien de bien nouveau, Angelina.
Non, et c'est justement là qu'intervient l'article de Vogue. Les femmes peuvent maintenant être indépendantes. Bon, le patriarcat n'a pas encore disparu, mais la vision des relations amoureuses a beaucoup évolué. Être en couple n'est plus perçu comme une obligation. L'article de Vogue évoque même l'idée que cela peut devenir gênant. Pour les influenceuses, par exemple, ce n'est plus à la mode d'afficher leur petit copain. Ou lorsqu'elle le fait, elle perd des abonnés. Les femmes ont pris conscience de leur valeur. On mérite mieux qu'un mec qui nous parle que lorsqu'il a besoin de nous, ou qui nous traite de folle lorsqu'il n'est pas d'accord avec nos propos ou nos émotions. Le dicton « mieux vaut être seul que mal accompagné » prend alors tout son sens. Bien sûr, des femmes en couple, ça existe encore. Ce qui est souligné, c'est simplement que les femmes sont libres de choisir, et qu'une relation ne les définit plus. Être en couple ou non, voir une ou plusieurs personnes, ou simplement s'en foutre.
Merci Angelina Richard pour ce billet d'humeur. Il est 7h52 et c'est la fin de cette matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours. Un grand merci aux auditeurs d'avoir passé ce début de journée avec nous et merci à tous les participants. Clara Baudard, Lise Oshkorn, Clara Danry, Antoine Camara, Mathis Maudet, Jules Frécon, Angelina Richard et surtout Gabriel Ziar puisqu'il a tenu son engagement et se levé tôt ce matin pour assurer au micro et à la technique. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5 FM. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous.